bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas le moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
La poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sûr la plus rebelle des radios. Vous êtes sur Radio Canus 102.2. Il est l'heure du Canu Info jusqu'à 20h. Alors ce soir, on commencera comme d'habitude par un petit mot sur Israël-Palestine. D'habitude, c'est un peu plus long, mais ça sera quand même le sujet d'introduction. Nous partirons en Égypte, on parlera un peu des profiteurs avec Leclerc. On parlera de ce fameux nouveau rapport pro-patronat. On parlera de sexisme, on parlera ni Dieu, ni maître, ni facho. On parlera de cinéma à Lyon. Et puis on parlera de trucs plus gourmands, les nanomatériaux dans la bouffe, les frites OGM, que de la gastronomie. Et on parlera aussi un peu de cette fameuse conférence anti-écologie qui est en train de se dérouler, même si c'est pas tout à fait ce qu'on nous vend. C'est un peu ce qu'on va en penser. Alors je te laisse peut-être ouvrir avec Israël-Palestine.
Oui, tu m'avais noté intro et donc...
Non, on y va y aller direct.
C'est bon, juste pour rappeler que si la semaine dernière on n'était pas là, c'est parce que l'entreprise multinationale détenue par des capitaux qui viennent de partout, du capitalisme traditionnel TDF qui diffuse Radio Canu, a coupé l'antenne de Radio Canu et l'antenne d'autres médias. A priori, ils ont eu un souci technique et ils n'ont pas été très très pressés de le réparer, puisqu'ils ont mis 7h56 pour réparer la boîte qui était cassée ou la changer. En tout cas, voilà, ils ont donc bloqué l'antenne de Radio Canu. Pendant un petit moment, nous n'avons pas pu faire le Canu Info, mais cette semaine, nous nous rattrapons, nous sommes à nouveau là, comme le dit notre petit slogan qu'avait écrit GB sur une affiche présente dans les locaux de Radio Canu. Ici, Radio Canu, jamais vaincu. On poursuit donc avec la situation israélo-palestinienne. Alors, j'ai pas d'infos sur là-bas du jour, mais on peut quand même parler de ce qui va se passer demain, et ça se passera en France, puisqu'il y a une proposition de loi qui a été déposée par un socialiste pour faire reconnaître la Palestine par la France, la Palestine comme étant un État. Donc c'est la première étape. Demain, la discussion aura lieu ce vendredi, et le vote aura lieu en début de semaine prochaine, le 2 décembre. Il y a son équivalent qui va arriver au Sénat aussi, ce sera le 11 décembre, sur une proposition des communistes cette fois-ci, pour demander, là aussi, de reconnaître l'État palestinien. Alors, c'est pour demander au gouvernement de reconnaître l'État palestinien, à savoir que ces résolutions, ces votes sont avant tout symboliques, c'est pour marquer le coup, pour dire qu'on est du côté des Palestiniens et de la création de cet État palestinien, même si la résolution est floue, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, hein, de pas remettre que on est pour un État démocratique, si ça y est, que c'est un État démocratique, souverain et démocratique, mais il n'y a pas sur quelles frontières on voudrait qu'il soit créé, mais bon, comme c'est symbolique, finalement c'est pas si important que ça. Alors qu'est-ce qui va se passer demain? Ils vont discuter. Qui est pour, qui est contre? On peut essayer d'imaginer ça. Au sein des deux, enfin de tous les mouvements, il y a des pour et des contre, du coup. Si on regarde au sein du PS, une grosse majorité du PS est quand même pour la reconnaissance. En tout cas, ceux qui s'expriment le disent. Ce qui est bizarre, hein, parce que François Hollande, dans le début des bombardements à Gaza cet été, a dit qu'il était du côté d'Israël, hein, ce qui avait énervé un peu tout le monde, et il fait la honte au niveau international, donc il avait été obligé de faire machine arrière après, mais on sait bien, c'est ce qu'il pense. Et il y a un gros courant pro-israélien à l'Assemblée du côté du Parti Socialiste. Bon, on verra si sur ce sujet-là, ils ont un petit peu changé. À savoir quand même qu'il y a un gros groupe de députés qui s'appelle l'amitié franco-israélienne, enfin l'amitié France-Israël, je crois que ça s'appelle. Eux, ils vont voter contre, bien évidemment, puisque en général, ils défendent bec et ongle le comportement de l'État d'Israël. Du côté de l'UMP, c'est plus compliqué, parce que historiquement, la droite était plutôt pro-arabe, hein, on se rappelle de Gaulle, de Chirac aussi, accueilli une espèce de héros quand il allait là-bas. Bizarrement, nous, on le prenait jamais pour un héros, mais là-bas, il le prenait pour un héros. Alors qu'aujourd'hui, dans la version moderne de cette droite-là, ça s'appelle l'UMP, c'est un peu compliqué. Alors, Sarko, qui se mêle de tout, a dit qu'il fallait que l'UMP vote contre la reconnaissance de l'État palestinien. Ce qui est bizarre, parce que il avait déjà dit qu'il était pour un État palestinien. Alors quand on le fait solennellement à l'Assemblée, il est contre. Enfin bon, c'est pas la première fois qu'il tourne sa veste non plus. Donc là, du coup, on n'a pas trop d'idées de ce qui peut se passer au sein de l'UMP. Il y en a qui vont voter pour, il y en a qui vont voter contre. Les quelques représentants des fachos à l'Assemblée nationale, là aussi, il devrait y avoir deux votes différents, puisque au sein de l'extrême droite, qui est représentée par le FN, les avis divergent, même si la majorité des élus et des représentants et des politiciens ou des membres et des militants, vous appelez ça comme vous voulez, de l'extrême droite est plutôt contre la reconnaissance de l'État palestinien dans l'État actuel, puisque il y a le Hamas dans le lot et qui déteste le Hamas. Et l'antisémitisme aujourd'hui au FN est un petit peu passé de mode, même s'il existe toujours. Du coup, il y a une grosse hésitation. Est-ce qu'on est toujours antisémite et donc anti-israélien et pro-palestinien, ou est-ce qu'on est moins antisémite mais on est hyper anti-musulman, donc du coup on n'est pas pro-palestinien et pro-israélien. Du coup, il y a les deux couleurs, hein, au FN, suivant si on est plus antisémite que anti-musulman. Voilà, c'est ça qui fait le truc. Donc à l'Assemblée, on aura peut-être un vote de chaque. Je crois qu'ils sont deux, hein, je sais plus comment ils sont. Mais bon, voilà. Quant aux autres, bon, bah l'extrême gauche, les Verts et les Cocos vont, et le parti de gauche, tout ça, vont bien évidemment voter pour la reconnaissance de la Palestine. Quant au centre, c'est pareil, on sait pas bien et c'est un peu mitigé. Donc voilà la réponse. Lundi pour le Parlement et le Sénat, ça sera le 11 décembre. On reste dans la région, enfin du coup on va dans la région israélo-palestinienne. Juste en dessous de la Palestine, il y a l'Égypte. L'Égypte avec ce fameux nouveau dictateur, hein, Abdel Fattah al-Sissi, donc, qui a pris le pouvoir militairement, hein, en 2013 avec ses copains de l'armée et qui a fait une pseudo-élection il n'y a pas bien longtemps, hein, où les partis islamiques, entre guillemets, les frères musulmans, et les partis laïques n'ont pas eu leur mot à dire. Du coup, on a un beau dictateur à l'ancienne, à l'Égypte, hein, comme ils ont l'habitude, c'est une tradition là-bas presque, j'ai l'impression. En tout cas, les démocrates ont du mal à se faire entendre en Égypte, ça c'est sûr. Et dans la série « Je suis un régime totalitaire et je le montre », 78 mineurs ont été condamnés de 2 à 5 ans de prison. Alors, officiellement, c'est pour appartenance à une organisation terroriste. Dans les faits, ils ont juste manifesté, participé à une manif de soutien à l'ancien président, le seul président élu à peu près correctement en Égypte, à peu près quand même. Mais moins mal que les autres, Mohamed Morsi, qui n'était pas défendable hein, sur plein de questions, de sujets, mais il était quand même élu. Et donc, si vous avez fait des manifs en le soutenant, eh ben vous n'avez pas le droit de soutenir l'autre candidat ou un ancien candidat. Donc, du coup, vous allez en tôle. Voilà le système Sisi aujourd'hui en place en Égypte. Bon, il y a eu des moultes condamnations à mort aussi. Enfin, voilà, c'est presque actuellement le pire régime qui est connu. L'Égypte au niveau de l'épuration des condamnations à mort, en tout cas dans des blocs complets hein, parce qu'on condamne des centaines de personnes d'un coup. Voilà, ça a bien basculé.
Oui, la venue de Sisi en France n'a amené certainement qu'une chose intéressante, c'est que la France, à travers le ministère des Affaires étrangères, en a profité pour rendre aujourd'hui 250 antiquités qui avaient quitté l'Égypte en 2010, avec la Révolution, des mouvements qui donc voilà des gens qui étaient partis dans leur bagage hein, tout simplement et qui sont fait arrêter à l'aéroport de Roissy entre mars et novembre 2010. Et donc la France a rendu ses œuvres d'art. Alors c'est quelque chose que le ministère des Affaires étrangères avec le ministère de la Culture sont en train de régulariser assez rapidement maintenant, beaucoup plus qu'avant. Et c'est vrai que c'est aussi derrière un petit peu une manière pour la France de voyager avec sa diplomatie et puis de dire, regardez, on vous rend vos biens artistiques, vos œuvres d'art, vos biens archéologiques. Donc voilà, c'est un petit peu la seule chose que moi j'ai retenue finalement de cette visite, puisqu'il n'est pas apparemment, quand même, les problématiques des droits de l'homme n'a pas bien évoqué. On a plus parlé du terrorisme, de la Libye, des investissements économiques de la France et de comment la France va pouvoir vendre des armes, évidemment, à l'Égypte, parce que ça, c'est une des grandes discussions. On en est à peu près sûr qu'il y a eu entre les deux hommes. Alors, on va maintenant passer à toute autre chose. On va revenir dans nos contrées. Là où le capitalisme trouve toujours de chouettes méthodes pour agir. Alors c'est une info que j'avais de la semaine dernière et puis j'ai pas pu vous en parler. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a eu un petit peu des avancées. Alors, ça, on va parler des magasins Leclerc. Vous savez, c'est donc des franchises. Il y a une certaine autonomie, on nous dit, tout en respectant en même temps le groupe. Je vous rappelle que Michel-Édouard Leclerc n'est plus un porte-parole qu'autre chose hein, dans toute cette affaire qui concerne donc les magasins Leclerc. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que en janvier 2014, dans un magasin Leclerc installé à Fleury-Mérogis, en banlieue parisienne, la direction embauche des stagiaires qui sont inscrits à Pôle emploi en leur faisant miroiter un CDI par la suite à la fin de ce stage. Ce stage étant en fait une formation hein, qui doit se dérouler dans ce supermarché Leclerc. Évidemment, en échange, Leclerc touche des aides Pôle emploi. Et c'est là où ça s'agite, puisqu'en fait les salariés ont accompagné ces stagiaires qui en fait se sont retrouvés mis à la porte dès qu'il a fallu justement conclure un contrat de travail. C'est-à-dire que en fait l'habitude des franchisés Leclerc, c'est de prendre des stagiaires à l'ouverture d'un magasin, c'est-à-dire avant même qu'ils soient encore en état de fonctionner, d'accueillir ses premiers clients, pour toute la mise en œuvre. Et c'est là où la formation se fait. Et puis au moment où le magasin ouvre, et ben là, dans ce coup, on met tous ces joyeuses personnes dehors, hop, et puis on prend d'autres gens, parce que d'autres gens, ça permet encore évidemment de récupérer de nouvelles aides. Alors ces personnes ne se sont pas laissées faire, hein, elles avaient donc raconté ces affaires au journal Le Monde au quotidien, et suite à ces affaires, elles avaient dit aussi qu'elles allaient évidemment porter l'affaire devant les prud'hommes. Leurs avocats avaient déjà commencé à engager les procédures. Et là, c'est le parquet d'Evry qui, suite à cette enquête et à ces révélations le quotidien, dans les pages du Monde, a lancé une enquête préliminaire qui a été confiée à la gendarmerie. Alors, le procureur de la République explique que c'est à la lecture de la plainte hein, qu'il a confié aux gendarmes deux axes d'enquête. Le premier, une escroquerie au préjudice de Pôle emploi. Le second, une escroquerie au préjudice des salariés. Donc c'est une nouvelle forme. Alors sur son voilà, c'est une nouvelle forme hein, d'escroquerie pour les entreprises. C'est un peu comme ça que présente le procureur de la République. En l'état, c'est une habitude frauduleuse des entreprises de tenter de se faire de l'argent. Il faut savoir que le centre de formation, c'est un centre de formation qui appartient au groupe Leclerc. Donc tout ça, en fait, ça reste très lié. Hein. Il récupère de l'argent tout en exploitant des travailleurs. Alors Michel-Édouard Leclerc sur son blog qui s'appelle De quoi je me mêle avec le jeu de mots sur M-E-L, Michel-Édouard Leclerc a publié la semaine dernière une réponse. Il a promis qu'il cautionnait pas, j'emploie son verbe, hein, les supermarchés qui abusent des formations financées par Pôle emploi, que ça allait saigner hein, globalement chez Leclerc. Sauf que, comme je vous le disais, Michel-Édouard Leclerc, à part être porte-parole et d'aller prêcher dans les médias assez fréquemment comment Leclerc c'est mieux que chez les autres, hein, dans la grande distribution, il sert quand même pas à grand chose. Bon, maintenant, voilà, l'organisme de formation, le FEM Formadif, va certainement être mis aussi en question. Donc voilà, on attendra un petit peu à la suite de savoir si il va y avoir d'autres salariés, d'autres stagiaires qui vont suivre, puisque en fait, l'enquête du Monde hein, a révélé que ça se passait vraiment dans, d'une manière systématique dans les magasins Leclerc. Donc voilà, c'est encore une fois des profiteurs chez le patronat.
Ah bah alors dans la série, on va rester dans l'économie et parler pas des profiteurs, mais quand même des escrocs libéraux. On a un rapport qui est apparu aujourd'hui venant de deux économistes, Jean Pisani-Ferry et Henrik Enderlein. Il y en a un qui représente la France, l'autre qui représente l'Allemagne, puisqu'ils ont été mandatés ou chargés plutôt par les deux gouvernements français et allemands de donner des pistes pour la croissance pour les deux pays. Donc bien évidemment, c'est pas un rapport neutre. C'est la neutralité existant de toute façon dans quasiment aucun domaine. Ce sont des économistes libéraux, très à droite, anti-protection sociale, ce qui va expliquer un petit peu ce qu'il y a dans le rapport. Donc ils ont étudié la France et l'Allemagne. Je vais pas détailler tout le rapport, mais donner quelques mesures pour montrer l'escroquerie que représente ce genre de rapport. Donc pour la France, la conclusion des deux économistes libéraux, c'est la France doit assouplir son marché du travail. Alors ça veut dire quoi, assouplir son marché du travail? Ils nous expliquent tous les deux que la France est menacée par un manque d'audace. Ah merde, c'est quoi? Alors ils expliquent qu'il va falloir donner aux entreprises la possibilité d'aménager plus facilement le temps de travail. Si l'entreprise a besoin de vous un dimanche matin, ils vous appellent la veille et ils vous disent d'aller travailler. C'est ça, hein, l'aménagement du temps de travail, hein, grosso modo. Et d'encourager l'embauche à durée indéterminée en rendant les coûts et les délais de licenciement plus, je cite, prévisibles. Ouais, c'est-à-dire plus facile, grosso modo, 15 jours avant, t'es viré, bah, des choses comme ça. Alors, ils nous parlent aussi d'enrayer les hausses de salaire déconnectées de l'activité. Alors, des hausses de salaire, je sais pas vous, mais moi j'ai pas vu de hausse de salaire. Je pense qu'on est pas mal à pas avoir vu de hausse de salaire. Voilà. Mais en fait, c'est depuis, il y a une loi hein, qui dit que tous les ans, il doit y avoir une négociation salariale. Et eux, ils veulent que ça ait lieu que tous les 3 ans. Ah bah, c'est vrai. Déjà qu'on ne gagne pas beaucoup dans ces négociations salariales, si en plus c'est tous les 3 ans. Et aussi, et là c'est quand même un truc énorme, revoir le mode de calcul du SMIC. Parce que ces voleurs, ces escrocs, vous les appelez comme vous voulez, ils veulent revoir le calcul du SMIC pour le baisser, le SMIC, bien sûr, pas pour l'augmenter. Or, ces deux énergumènes, ils ne connaissent pas ce que c'est que vivre avec le SMIC. Parce que M. Jean Pisani-Ferry et Henrik Enderlein, ils ne touchent pas le SMIC. Ils ont des salaires bien plus élevés. Donc forcément, c'est très facile de demander aux pauvres ou de dire les pauvres ne sont pas encore assez pauvres. Il faut qu'ils soient encore plus pauvres en gagnant moins que le SMIC, car le SMIC est à peu près à 1000 euros. Essayez de vivre à côté de Radio Canu avec 1000 euros et vous allez voir que on s'attend vers l'exploit. Mais c'est ce que proposent ces deux économistes parce qu'ils estiment que c'est normal que les pauvres soient pauvres. Voilà, ils n'ont pas osé dire un salaud de pauvre, tout ça, mais on sent bien cette idée derrière la tête. Alors pour l'Allemagne, il y a d'autres choses dont on aussi ils font quand même dans la leçon des économistes libéraux très réactionnaires. Il faut que la France diminue ses dépenses publiques. Oui, c'est mal les dépenses publiques, on le rappelle. Bon, bref. Pour l'Allemagne, alors c'est plus drôle sur l'Allemagne. Donc là, ils disent, le plus gros problème, c'est la démographie en Allemagne, qui est très ralentie. Du coup, comme solution, ils en proposent deux. La première, c'est d'augmenter l'immigration en Allemagne. Ce que le patronat aime bien, le patronat est toujours pro-immigration, si ça leur permet d'avoir des esclaves ou des salariés corvéables à merci, comme on dit dans le monde moderne. Et aussi, d'encourager le travail des femmes, ils proposent. Mais comment ? Par la fiscalité et la loi. Vous savez que le gros problème de l'Allemagne, entre autres, un des problèmes sur le travail des femmes, c'est que le secteur public sur les crèches, sur toutes ces choses-là, est très peu développé. Du coup, les femmes, si elles font des enfants, elles n'ont plus le choix, elles sont obligées d'arrêter de travailler. Et ce que proposent ces deux économistes libéraux, c'est pas qu'il y ait de l'investissement public dans des crèches, dans des systèmes pour que les femmes puissent à la fois faire des enfants et aller travailler. Non, c'est de trouver des astuces pour qu'elles aient des dédommagements sur les impôts, par exemple, pour qu'elles puissent payer quelqu'un pour garder les enfants pendant qu'elles iront travailler, mais surtout pas un secteur public, puisqu'ils sont pour la destruction du secteur public. C'est ce qui ressort quand même de ce rapport ultralibéral. Il va être utilisé, bien évidemment, par Hollande, hein, puisque ça valide exactement la politique libérale de Hollande. Bon, c'est une escroquerie de plus, auquel nous n'accorderons pas plus que ces quelques minutes d'antenne pour démonter cette propagande. Ce qui est intéressant, ce qui est un peu pénible avec ces gens-là, c'est que nous, on assume d'être anti-libéraux. Eux, ils assument pas la couleur politique de leur rapport. Ils assument pas de dire on veut que les pauvres soient plus pauvres, on veut moins de secteur public, c'est-à-dire moins d'aide. Enfin, ils assument pas du tout parce qu'ils passeraient pour des gros salauds et c'est pour ça qu'ils le disent pas. Mais nous, on va le dire à leur place.
Alors, il y en a un qui a assumé la semaine dernière dans les page internet de challenge.fr, c'est Jacques Cressel, délégué général de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, qui nous a fait un beau discours avec des arguments évidemment fallacieux sur le travail des salariés et sur le travail du dimanche. Il nous explique. Alors c'est une tribune hein, qu'il a écrit. Quelle réforme peut créer des emplois, ne rien coûter à l'État, simplifier des règles incompréhensibles, renforcer la compétitivité de notre pays, répondre aux demandes de la Commission européenne et du gouverneur de la Banque de France et enfin être soutenu par près des trois quarts des Français ? La réponse est simple. Une ouverture des magasins le dimanche et le soir. J'en bafouille tellement ça m'agace. Alors, il nous explique. Hein. Une vraie réforme est pourtant indispensable et même vitale pour l'emploi dans le commerce. Parce qu'il n'y a pas que des touristes chinois amateurs de produits de luxe, mais aussi des consommateurs français qui veulent faire leurs courses quand ils en ont le temps. Parce que ce même consommateur n'est plus ce qu'il était en 1906, au moment où l'essentiel des règles sur l'ouverture dominicale des magasins était bâti. Une très grande majorité de femmes travaillent. Les habitants ont des horaires tardifs dans les grandes villes. Tous, et notamment les plus jeunes, ont désormais pris l'habitude d'acheter sur Internet 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Parce que l'ouverture du dimanche et du soir génère de la consommation supplémentaire et est souvent la condition de la survie des magasins. Parce que si l'on ne fait rien, vont se multiplier dans les villes des casiers dans lesquels les consommateurs iront à toute heure récupérer leurs courses le dimanche et le soir et progressivement les autres jours. Alors, on pourrait déjà lui répondre qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas de consommation supplémentaire. Il peut y avoir un emballement sur certains secteurs parce qu'il y a la nouveauté.
Mais les gens, il leur reste zéro à la fin du mois. Donc du coup, si les magasins ouvrent plus, le zéro, ils ne vont pas le dépenser. Hein, c'est zéro.
Alors, en plus, ce qui nous fait rigoler, c'est que cette fédération, elle, évidemment, regroupe des gens comme le groupe Carrefour, le groupe Casino, le groupe Nuyez. Donc, c'est-à-dire des gens qui ont aussi des sites internet et qui ont aussi un système de casier. Donc, ils se fichent un petit peu de notre gueule, c'est de l'hypocrisie. Il continue plus loin, Jacques Cressel. Le sujet n'est plus aujourd'hui de savoir si les Français, toujours ce mot français, c'est vrai qu'en France, il n'y a que des Français qui consomment, c'est bien connu. Le sujet n'est plus aujourd'hui de savoir si les Français pourront faire leurs courses le dimanche, mais de savoir si le font dans un magasin physique avec des emplois ou dans des magasins virtuels. Il n'y a
sans
pas
emploi.
D'emploi. Hein, d'accord. Le sujet, c'est de développer et encourager les magasins de proximité, notamment alimentaires, qui sont une des attractivités de la France, plutôt que de laisser mourir les centres-villes.
Alors, on pourrait lui répondre quand même qu'il devrait savoir que le dimanche matin, quand vous sortez, les magasins alimentaires, les boucheries, les charcuteries, les boulangers sont ouverts. C'est la vente de produits faits par l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire les grands magasins qui ne sont pas autorisés.
Alors, si,
les supérettes sont même même ouvert.
Alors, en fait, là, moi, surtout, ce que je voudrais lui dire, c'est que les magasins de proximité, ils sont contre une étendue du travail le dimanche, tout simplement parce que c'est pas extensible et qu'ils peuvent pas payer des salariés aussi pour être là le dimanche. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vont être obligés d'embaucher et que pour l'instant, ils n'en ont pas les moyens. C'est en tout cas le discours qu'ils tiennent. Donc, ils sont pas favorables à ça. Donc, en fait, ils parlent vraiment au nom de gros groupes. Il faut pas l'oublier, hein, la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, c'est des énormes machins et qui se fichent pas mal du commerce de proximité. Donc, si Monoprix sont intéressés évidemment pour continuer à ouvrir le dimanche, pour continuer à ouvrir le soir, sauf qu'ils se sont fait fermer en soirée. Donc voilà, lui tout de suite, il va aussi à la panique. Si demain on n'ouvre pas en soirée, si on n'ouvre pas dimanche, c'est la mort du commerce et donc c'est la mort de l'emploi en France.
Ouais, et ce qui est bien évidemment faux, parce que si jamais ils ouvrent tous ces gros magasins le dimanche, eh ben toutes les petites boucheries, les petites boulangeries comme ça vont en prendre plein la gueule et on va avoir une grosse fermeture sur ces petits magasins qui sont ouverts le dimanche. Et comme ces magasins, en proportion, ils embauchent beaucoup plus que Carrefour en proportion, hein, ils font travailler beaucoup plus de gens. Du coup, c'est le chômage qui augmente. Chaque fois qu'on ouvre un grand magasin et que ça ferme, des commerces de proximité, le chômage augmente mécaniquement. C'est inévitable, puisqu'un gros magasin nécessite beaucoup moins de salariés qu'un petit magasin de proximité. Donc, c'est de la propagande. Et ce qu'ils veulent, c'est juste gagner plus d'argent. Finalement, c'est assez simple. Alors, on va faire une grosse rubrique autour du... Oui, tu voulais dire autre chose ?
Je te laisse faire ta rubrique et puis ensuite nous parlerons, si tu veux, bien de BD.
Ah non, mais il y a le sexisme.
Le faire tout de suite.
Oui, mais parce que du coup, tu as parlé après moi et tu m'avais mis...
Tu veux tout expliquer à nos éditeurs, auditrices.
Parce que nous n'avons un conducteur comme les vrais journaux, mais...
Sauf qu'on fait aussi de l'impro.
Voilà, et du coup, tu as improvisé et j'ai cru que c'était ce qui était écrit sur le conducteur, parce que j'arrivais pas bien à lire. Du coup, c'est
alors,
encore
on va partir à Toulouse, si tu veux bien. À Toulouse, il y avait une belle idée qui était de faire une exposition dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ça, c'était prévu donc mardi dans le square Charles de Gaulle pour ceux et celles qui connaissent Toulouse. Donc ça part plutôt d'une bonne idée, surtout que la mairie de Toulouse se sent pris de plein d'idées et sollicite un auteur, un illustrateur, Thomas Mathieu, dont qui a écrit un album qui s'appelle Les Crocodiles, c'est aux éditions Lombard, et qui tient un blog qui s'appelle Projet Crocodile sur Internet, hein, vous trouverez. Donc, pourquoi il le contacte ? Parce que Thomas Mathieu, dans cet album, a dessiné les hommes sous l'apparence de crocodile et raconte les violences que subissent les femmes. Il s'est basé sur des témoignages, hein, que les femmes lui ont racontés. Donc, lui, il répond positivement. On lui a demandé 15 planches qu'il envoie à la mairie de Toulouse. Hein. Ces planches, elles traitent du harcèlement et du sexisme ordinaire. Donc, ça rentre tout à fait dans cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et là, premier passage, ça va. Deuxième passage, ça va plus. Catastrophe. C'est-à-dire qu'alors qu'il est sollicité pour participer à cette journée, d'un seul coup, on veut plus de lui. Et ça s'est passé un peu du jour au lendemain. Alors, je vous rappelle que ce sont des élus UMP hein, qui tiennent cette cité rose. Heureusement, il paraît quand même que le Parti Socialiste s'est énervé quand même sur la question. Alors, il paraît que d'un seul coup, les planches de Thomas Mathieu ne sont plus présentables. Elles sont provocatrices. Oui.
Ben oui, il présente la violence faite aux femmes.
Oui.
C'est choquant, la violence faite aux femmes, du coup. Alors, c'est pas très vulgaire, moi, je trouve. C'est très choquant plus qu'autre chose, mais c'est la violence qui est choquante.
Alors,
et
si
pas les planches.
C'est vulgaire, parce que souvent, on subit beaucoup de vulgarité qui, évidemment, se transforme en de la violence, en de la brutalité et de l'agression. C'est une élue UMP qui s'appelle Laurence Katzmeyer qui est intervenue pour faire cesser cette infamie. Comment donc c'était possible ? Alors, elle nie pas hein, que effectivement, elle estime que si les... Alors, elle dit que s'il y a un caractère provocateur et parfois vulgaire de certains textes, ce que ne renie pas Thomas Mathieu, il raconte crûment les choses. Si vous êtes devant un ordinateur, bah vous pouvez en profiter pour regarder les images dont je suis en train de vous parler. Alors, il est choqué un petit peu quand même, Thomas Mathieu, comme je le suis et comme beaucoup d'autres le sont. C'est que oui, effectivement, comme tu le disais, c'est provocant et vulgaire, mais parce que cette violence, elle est agressive, elle est brutale, et que bah oui, ça se transmet dans ces planches. Alors il faut dire qu'il y en a deux, hein, de planches qui sont particulièrement visées, une qui parle d'homophobie et l'autre qui parle du viol conjugal, hein, deux sujets dont évidemment se sont saisis les réacs fachos. Alors il y en a une de planches où on voit un couple de lesbiennes qui se fait interpeller donc par l'homme crocodile, qui dit « Eh, les lesbiennes, vous voulez ma bite dans le cul ?»
C'est classe quand même.
Ouais. C'est pas mal. La deuxième montre le viol domestique, c'est-à-dire comment à un moment quand une femme elle dit non, l'homme la prend de force, la viole. Ça c'est des choses qui ont été pas bien acceptées a priori. On n'a pas le droit de parler de ces sujets-là.
Pourtant ça décrit des faits qui arrivent malheureusement, cette violence, qu'elle soit verbale pour le cas des deux lesbiennes qui se font agresser verbalement dans la rue par un gros con, parce que je sais pas comment on peut appeler ce gars-là. Ou un machiste ou je ne sais quoi, et la violence, le viol au sein des couples, oui, là, ça décrit juste une réalité.
Alors Thomas, Mathieu, c'est vrai que je pense qu'il est peiné par tout ça, très sincèrement. Il explique dans une interview, il est délicat pour une victime qui m'a confié son histoire et dont j'ai finalement reproduit les propos, d'entendre dire que telle planche est vulgaire. Oui, on comprend que ça doit le profondément le toucher. Il explique aussi des thèmes qui posent problème dans la société d'aujourd'hui. On voit deux femmes se tenir la main de ces thèmes. On voit deux femmes se tenir la main dans la première. Je me demande si ce n'est pas cela finalement qui est trouvé immoral et pornographique.
Tout à fait. Ce serait grave. Bah oui, ce serait grave, voilà. Mais ce serait pas la première fois que des élus UMP soient homophobes. Donc on en a plein d'exemples.
Ouais, alors on rappellerait, c'est quand même l'Amérique avait fait aussi cet appel. Donc les élus réinterviennent derrière. Tout ça, c'est très bas, très vulgaire justement. C'est eux qui sont vulgaires, tout simplement. Thomas Mathieu, lui, je vous invite à aller voir son travail. Donc les crocodiles, projet crocodile sur internet, vous trouvez facilement. Et sinon, c'est aux éditions Lombard.
Du Lombard. On poursuit avec cette grosse partie autour de l'extrême droite, avec le congrès du FN qui a lieu à Lyon samedi et dimanche, avec grosse mobilisation samedi et dimanche, samedi autour d'une manif, dimanche autour de rencontres, débats pour parler de l'extrême droite et comment lutter contre l'extrême droite. Alors du coup, je vais refaire un petit bilan sur ces 6 derniers mois, parce que ça fait quelques mois maintenant, hein, que des élus FN ont gagné des mairies. Alors on se rappelle qu'il y a quelques années c'était ça, avec un triste souvenir pour Orange, tout ça, parce que les villes étaient dans un triste état après. Donc là on va revenir sur les dernières frasques, on va dire, des élus frontistes. On va revenir sur les mensonges et les imbécilités qu'a dit Marine Le Pen la semaine dernière, puisque suite à cette affaire de djihadiste français qui était visible sur une vidéo quand le Peter Kassing a été assassiné, Marine Le Pen avait dit qu'il y avait effectivement 4000 Français qui étaient partis faire le djihad. Bon, c'est un chiffre très exagéré, hein, puisqu'on est aux alentours d'un peu plus de 1000. Bon, de toute façon, on s'en fout un peu du chiffre, hein, mais c'est pour rappeler qu'elle avait totalement inventé ce chiffre-là, même si elle dit ne pas tenir compte que des Français, mais aussi de ceux qui sont franco, je ne sais quoi. Non, en fait, ils sont bien moins nombreux que ça. Et puis après, elle avait dit, et ça, cette phrase, elle est énorme, elle avait dit, je cite, « Le fondamentalisme ne pousse pas dans les prairies normandes. » Vous voyez, la Normandie, pays où il se passe pas grand chose, tout ça. Sauf que, dans la vidéo de l'assassinat de Peter Kassing, on y reconnaissait, enfin, nous non, mais les flics, les services de sécurité ont reconnu Maxime Auchard, djihadiste donc de 22 ans, originaire de Bosc-Roger en Roumois, qui est une commune de Normandie. Eh oui. Comme quoi, le fondamentalisme pousse aussi dans les prairies normandes. Donc elle s'était bien plantée, la cheftaine du Front National. De même, quand elle avait dit qu'elle estimait que les Français non binationaux, en gros les Français de souche, étaient minoritaires, c'est-à-dire les convertis, c'est faux, parce qu'ils sont beaucoup plus qu'on ne pourrait l'imaginer, puisqu'ils sont 21% des djihadistes français recensés, et 29% si on parle parle que des femmes. Il y a 88 femmes recensées djihadistes, c'est-à-dire françaises, dans les zones de combat. Donc qui sont pas du tout de culture musulmane au départ, mais qui se sont converties. Et d'ailleurs, il y a un rapport qui avait été publié par le Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam sur les 160 familles qui ont fait appel à ce centre-là pour demander de l'aide. 80% de ces familles se déclarent athées, donc pas du tout issues d'un milieu religieux. 80% c'est beaucoup, hein. 10% seulement comportent un grand-parent immigré, donc c'est même pas issu de l'immigration, et les classes moyennes sont majoritaires avec 67%, donc du coup ça casse un peu le discours raciste du Front National. Certes, il y a sûrement des gens qui sont de culture musulmane, comme ils disent, qui sont français, qui sont partis faire le djihad, mais il n'y a pas que, hein. Donc voilà. Alors, pour revenir sur les villes qui ont basculé du côté des maires fascistes, on a Fréjus qui aime pas le parti de gauche et qui donc interdit au parti de gauche de venir sur les marchés faire de la propagande, alors que le FN fait de la propagande à plein d'autres endroits, notamment à Hénin-Beaumont sur le marché. Mais bien sûr, c'est pas pareil, le FN a le droit et pas le parti de gauche. Pareil, toujours à Fréjus, hein, les centres sociaux ferment petit à petit, hein, pour faire disparaître tout ce qui est social. Grosso modo, hein, les maires frontistes ont comme point commun de fermer tout ce qui touche à l'aide aux pauvres. Parce qu'ils estiment que les pauvres sont avant tout des étrangers. Et donc, on n'aide pas les étrangers. Point. Alors, dans la Syrie aussi, c'est pareil, pendant de nombreuses années, ils nous ont fait comme propagande, bien sûr, nous, on n'y a jamais cru, qu'ils étaient différents des autres et qu'ils n'auraient pas le même fonctionnement que les autres. Alors, quand ils ont eu Toulon, toutes ces villes-là, il y a quelques années, on a bien vu que c'était les mêmes, hein, qu'ils avaient les mêmes pratiques politiques, politiciennes. Et là, on a des nouveaux exemples. Par exemple, au Pontet, Joris Ebrard est arrivé, il a augmenté son salaire de 44%. On dirait, disons, discours Front National, on n'est pas comme les autres, pas vraiment. Et en plus, non seulement il s'est augmenté, et en plus il a triché, donc son élection a été annulée. Vous savez, c'est là où entre autres sur les listes, ils avaient inscrit des gens qui n'étaient pas au courant. Alors si on regarde plus globalement sur le monde social et associatif, c'est quand même pas mal l'hécatombe, notamment Steve Briua, donc qui est le maire de Hénin-Beaumont. Donc il a expulsé la Ligue des droits de l'homme de ses locaux, qui étaient des locaux prêtés par la mairie depuis une dizaine d'années. Bon, il leur a du coup aussi réclamé des arriérés de loyers illégaux, parce que on leur prêtait les locaux, mais bon, voilà, 36 000 euros demandés à la Ligue des droits de l'homme, puisque le Front National n'aime pas la Ligue des droits de l'homme et n'aime pas les droits de l'homme. À Fréjus, c'est l'association Sport et Loisirs qui a été touchée aussi, donc suppression de subventions. À Mantes-la-Jolie, grosso modo, les subventions ont baissé de 20%. Il y a des attaques comme ça, frontales, sur tout ce qui est socialiste. Et alors, le maire, qui s'appelle Cyril Note, qui est de maire de Mantes-la-Jolie, il a dit que, de toute façon, il était contre les CVS. Alors, les CVS, c'était les trois centres de vie sociale. Parce qu'il a dit, c'est pas notre truc au Front National, les CVS. Même le titre de centre de vie sociale a une connotation trop socialiste, voire soviétique. Quand on aide les gens, c'est soviétique, c'est sûr. Au Pontet, ils ont attaqué le Téléthon. Ils sont bizarres quand même, ces fachos, parce que moi, le Téléthon, je voyais pas ça comme un truc ni de droite ni de gauche, mais un truc juste un peu minable pour même plus de droite que de gauche, d'ailleurs, le Téléthon, dans l'idéologie, puisque on dit que l'État ne prend pas en charge la recherche et c'est les privés qui doivent prendre en charge. Donc c'est plutôt une démarche de droite au départ, mais ça devait pas être assez à droite pour eux. Donc ils ont supprimé toute la contribution logistique et financière de la municipalité à l'association qui organise depuis plus de 10 ans, ça s'appelle la course des 24 heures. Et du coup, ils ont jeté l'éponge, donc il n'y aura pas de Téléthon cette année. On n'aidera pas les maladies, les chercheurs pour les maladies rares. Bon, voilà, à Béziers, Robert Ménard, qui est plus proche des identitaires, hein, que du Front National, mais qui est ami, hein, au Front National, a supprimé l'étude du matin. Hein, il a dit non, sauf si les deux parents travaillent. Bon, voilà, l'étude devait servir aux plus fragiles. Hop, c'est giclé. Au Pontet, Joris Ebrard a viré les pauvres de la cantine. Si vous pouvez pas payer, vous mangez pas, parce qu'avant, la cantine était gratuite pour les pauvres. À savoir que ça représentait 30 000 euros sur un budget de 50 millions d'euros, donc c'était une gouttelette d'eau, mais symbolique, la gouttelette d'eau. Voilà. On peut parler de l'immigration un peu. À Villers-Cotterêts, la municipalité FN a décidé de pas participer à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Alors l'abolition de l'esclavage, hein, c'est un truc qui a toujours énervé l'extrême droite et notamment le Front National, qui ont toujours été pro-esclavagistes. C'est assez bizarre dans le monde moderne, quoi. Parce que je pense qu'il y a une bonne partie des fachos, notamment des identitaires, qui en ont rien à foutre de l'esclavage, qui, je pense, valideraient pas l'idée de l'esclavage. Mais au FN, ils ont encore des vieux réactionnaires qui ont mal vécu, ou en tout cas qui ont dû avoir des parents qui étaient esclavagistes et qui ont mal vécu l'abrogation de l'esclavage. J'ai jamais compris pourquoi ils avaient ces idées nauséabondes-là. En tout cas, le maire, Franck Briffaut, a dénoncé une auto-culpabilisation permanente. Voilà. Faut savoir quand même que Villers Cotterêts, c'est la ville où est mort le général Dumas, qui était le papa d'Alexandre Dumas, qui est dans l'histoire de l'intégration des étrangers en France, c'est symbolique puisqu'il est né esclave en 1806, et il est devenu gradé de l'armée, c'était le premier de l'armée antillaise, quoi. Donc c'est un vrai symbole d'intégration et de suppression de l'esclavagisme, mais bon, ça plaît pas aux fachos du Front National. Bon, j'en aurais plein hein, comme ça. On peut reparler des salaires des élus parce que là, ils ont vraiment pas donné l'exemple. Cogolin, donc le maire a estimé qu'il devait avoir 1250 euros en plus de son salaire. Donc il s'est rajouté une indemnité de 1250 euros par mois. Voilà, ça va coûter 273 000 euros pendant son mandat à la mairie. Il y en a plein. On peut reparler du congrès du FN du week-end prochain où Mediapart et le petit journal de Canal+ ont été interdits de venir. C'est pas la première fois. On peut redire aussi que le FN, qui soi-disant a changé depuis l'arrivée de Marine Le Pen, elle a toujours la même idéologie vis-à-vis de l'étranger, c'est-à-dire elle n'aime les étrangers que quand ils sont dictateurs. Donc par exemple, quand le maréchal Abdel Fattah al-Sissi est venu à Paris donc en début de semaine, le Front National a souhaité la bienvenue au dictateur égyptien parce que elle l'aime, le dictateur égyptien. Donc voilà, sur les manifs des agriculteurs, il y a pas bien longtemps, la FNSEA contre l'opposition au barrage de Sivens notamment avait fait des contre-manifs. Le FN, alors plusieurs FN régionaux ont fait des soutiens aux agriculteurs de la FNSEA. Alors, sur le discours écologique, le FN a fait, comme beaucoup, un gros discours écologique, mais dans les faits, on les a toujours vus soutenir la FNSEA, l'agriculture productiviste, l'industrie. Alors d'ailleurs, sur l'agriculture, et ce sera le mot de la fin, le FN a un discours différent, suivant qu'il parle aux Français dits traditionnels ou s'il parle aux agriculteurs. Par exemple, le discours traditionnel sur l'immigration aux Français, et le FN est contre l'immigration. Il faut interdire les travailleurs étrangers en France, il faut interdire l'immigration, etc. Quand elle parle aux agriculteurs, elle a pas le même discours. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs productivistes, notamment, utilisent la main-d'œuvre étrangère à bas coût, en les logeant dans des conditions déplorables. Là, du coup, on est proche de l'esclavagisme. Et pour ne pas froisser cette frange-là de l'électorat FN, quand ils s'adressent à ces agriculteurs-là, ils disent qu'ils sont pour que les travailleurs étrangers continuent de venir travailler en France. Donc voilà, comme quoi, hein. Ils sont pas très réglo non plus, ils sont pro-nucléaire, pro-ITER, ils sont pour la construction de l'EPR. Voilà, bon, grosso modo, ils sont anti-vélo, pro-voiture, sur l'écologie. Voilà, bon, on pourrait en parler. Ça reste un parti fasciste d'extrême droite. Ça n'a pas changé. Seul le discours a changé pour manipuler la population. Mais c'est tout.
Alors moi, je voudrais donner un exemple lyonnais, monsieur Christophe Boudot. Alors je me suis plongé dans le procès-verbal de la séance du 20 octobre 2014, au conseil municipal de Lyon, qui donc procès-verbal que vous pouvez retrouver dans le bulletin municipal officiel du 17 novembre. Alors Christophe Boudot, monsieur Boudot, intervient à des moments très précis. Je vais vous donner deux exemples de ses interventions, donc on peut lire. Alors là, première intervention renvoie à une question sur l'attribution de subventions au titre de la lutte contre les discriminations, de l'égalité et des droits des citoyens. Évidemment, ça, c'est le genre de sujet avec le...
L'égalité, ils n'aiment pas.
Voilà. Alors, bon, Monsieur Boudot s'en prend à un moment à SOS Racisme sur leur financement et leur proximité avec le Parti Socialiste. Ça, à la rigueur, on veut bien. Plus loin, le MRAP se fait traiter d'officine communiste. Et alors, le petit paragraphe... c'est tout énorme à lire. Très sincèrement, si vous mettez la main sur ces trucs, c'est énorme ce qu'il raconte. C'est quand même une bonne vue de ce qu'est le FN et du danger que sert. Et il nous dit donc, juste là, tout y est. Vous avez aussi subventionné les droits de l'homme, bien évidemment, les festivals de cinéma LGBT. Alors, je vais dire LGBT.
Ah bah ça, voilà. Quelle horreur.
J'essaye de le relire. J'en passe, et des meilleurs, ou plutôt des pires. Je pourrais continuer la liste qui est malheureusement si longue, mais ça, alors ça évidemment, il est pas content quand on parle des gays, des lesbiens, oui. Alors bon, des trans, de toute façon, je pense qu'il peut même pas dire le mot, hein, Monsieur Boudot. Voilà, ça lui va pas. Mais alors, sinon, j'ai trouvé un autre sujet sur lequel ils sont aussi très intéressants. Ça n'a rien à voir. Ça concerne les fêtes de fin d'année, illumination et animation 2014, attribution de subventions d'un montant total de 98 000 euros. On pourrait d'ailleurs avoir un vrai sujet sur ses attributions de subventions. Monsieur Boudot, lui, ne s'en prend pas au montant donné aux commerçants. Il explique « Nous sommes bien entendu favorables aux illuminations et animations commerciales de la ville à l'aide directe aux commerçants. Par ailleurs, tellement taxé par votre gouvernement qui développe des projets autour de Noël, pourquoi ne pas le citer ? Je n'ai pas vu Noël dans le rapport. On peut parler de fête de fin d'année, mais on peut parler aussi de fête de Noël. Ce n'est pas un gros mot, voilà. »
Ah mais oui, en voilà. Tant que chrétien, il a besoin qu'on dise le mot de Noël. On rappelle que Noël, si c'est chrétien, la fête commerciale l'est pas du tout chrétienne.
Ouais, mais il fait les mêmes discours sur la fête des Lumières, pour lui qui devrait... En fait, le 8 décembre, pour lui, devrait être écarté de la fête des Lumières, puisque... la fête des Lumières qui a perdu son sens pour lui en rapport à la chrétienté, il n'y a plus de respect. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre de truc que M. Boudot nous fait partager en étant donc conseiller municipal du 8e arrondissement. Je vous rappelle que dans les arrondissements, il y a les adjoints, il y a les conseillers. Les conseillers, quand ils sont en opposition, ils ne servent pas trop, parce qu'en général, ils ne sont pas très nombreux, sauf dans les mairies assez importantes. Mais voilà, ouais, c'est assez puant tout ce qu'il défend. Et d'ailleurs, j'ai noté que tout ce qui concerne les demandes de subventions liées à l'associatif, au culturel ou à l'artistique, il s'abstient.
Ah bah ouais, attends.
Même pas le courage de voter contre, il s'abstient.
Radio Cani, la radio qui venge même les lapins.
Alors, avant de partir dans une rubrique gastronomique avec Laurent, on va parler un petit peu de ce qui se passe à Lyon, on va continuer, on va parler de ce qui se passe dans la culture et dans les cinémas, puisqu'on a appris cette semaine qu'après La Fourmi, dans le 3e arrondissement, Monsieur Frémaux et l'Institut Lumière, à travers cette société Cinéma Lumière, ont acheté les CNP.
Cher.
Alors, on n'a pas, j'ai pas les montants. En fait, bon, les CNP, ça leur évite de. Enfin, c'est en liquidation judiciaire, quand même, faut se rendre compte. Ça faisait un moment que ça allait pas bien. Pour un petit peu vous rappeler, si vous connaissez pas les CNP, si vous arrivez à Lyon, les Cinémas National Populaire a été créé par Planchon en 68 et par Robert Gilbert, tous les deux directeurs au TNP, hein, au Théâtre National Populaire à Villeurbanne. Ils s'inspirent un petit peu de l'idée. Les cinéma CNP qui ont beaucoup évolué. On pourrait par exemple se rappeler qu'à la place du cinéma opéra, il y a eu un CNP. Bon, après, ça a été un cinéma de cul, mais il y a eu un moment où ça a été un CNP. On rappellera que ça fait partie de ces lieux à Lyon où, sur les années 70, 80 et 90, il y a eu une diffusion absolument incroyable, des choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. Lyon a été une ville importante en termes de diffusion de cinéma recherche et de cinéma art et essai. Ensuite, ben, il y a eu un gros développement d'autres cinémas, et puis surtout, il s'est passé une chose, c'est que là où avant on avait un Woody Allen qui sortait à l'ambiance, qui n'existe plus aujourd'hui, ou au CNP, ben, s'est mis à sortir dans des grosses salles comme au Pathé en VO, c'est-à-dire sur une concurrence directe au niveau du public, que un Tarantino avant, ça ne sortait que dans un CNP, ça s'est mis à sortir un petit peu de partout, à l'UGC et au Pathé. exploité en VO. Donc voilà, une concurrence qui a affaibli évidemment le CNP, le CNP aussi qui s'est dégradé. Je vous rappelle que en 98, les CNP sont vendus par Planchon à Monsieur Moraviov, qui laisse le truc se pourrir jusqu'à cet état aujourd'hui avec du rien dedans. Hein, voilà. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bah oui, c'est toujours une bonne nouvelle de voir des salles repartir. La vraie question, c'est économique. Comment ils vont tous se mettre à vendre la même chose? Il va falloir que le ciné, les nouveaux cinémas Lumière soient force de proposition artistique et que ça soit pas que sur une recherche financière, parce que ça risque très difficile. Ou alors il va falloir qu'ils organisent beaucoup de rendez-vous, un peu comme à l'Institut Lumière. Ceux qui doivent se faire un petit peu du souci, ben c'est aux comédiens, puisqu'effectivement, ben, ils ont aussi récupéré ces spectateurs, hein, qui ne trouvaient plus des salles comme l'Ambiance ou les CNP, qui étaient quand même là où on trouvait un petit peu des films différents que les gros films hollywoodiens en VF en plus. C'est une nouvelle énergie. Alors apparemment, ça devrait ouvrir en septembre 2015. Voilà, toutes ces ouvertures vont donner, mais c'est vrai que ça amène une nouvelle concurrence. Alors c'est plutôt bien parce que chacun a l'air un petit peu de s'encrouter quand même sur ses habitudes, même aux comédiens. Je veux dire, il y a des choses qu'on voit plus du tout aujourd'hui à Lyon, c'est fini. Ou alors malheureusement, le comédien, ils vont nous les sortir une semaine parce qu'il n'y aura pas de durée. Il y a aussi derrière les distributeurs qui vont avoir une ou deux copies du film. Hein, c'est pas rare, hein, d'avoir un film qui va mettre 2 mois à arriver à Toulouse, dont on parlait tout à l'heure, parce qu'avant, il aura fait tout un circuit et qu'il y a une copie région et que l'autre copie elle est à Paris et que voilà, donc c'est tout un système
maintenant avec le numérique, il devrait pouvoir généraliser plutôt
il généralise tout ça, quoi. Mais ça reste aussi des, comment dirais-je, une habitude de travail. C'est beaucoup de négociations, hein, dans les cinémas. Il faut pas croire que parce qu'on est dans l'art que tout ça c'est facile, ou que parce qu'on est dans du commerce c'est tout aussi facile et que c'est les mêmes règles que pour une boîte de petits pois. C'est pas tout à fait le cas. Donc bon, on va voir, c'est plutôt une bonne nouvelle. Reste à savoir si tout le monde va pouvoir sortir un petit peu les pépettes, pouvoir se maintenir dans le temps, payer ses salariés correctement et nous proposer vraiment de belles choses.
Alors, moi je dirais un truc à Thierry Frémaux, donc qui a racheté. Si t'as plein d'argent, Thierry, je te rappelle que t'as débuté à Radio Canu il y a de nombreuses années et tu peux donc participer, toi et tes amis qui sont un peu plus riches que nous, à l'appel à dons, puisque Radio Canu cherche à acheter un local pour avoir une situation un peu stable. Et donc voilà, on a besoin d'un petit peu de dons et toi en tant qu'ancien, ça serait bien que tu viennes nous aider aussi. On rappelle que d'ailleurs c'est son papa qui a participé à la création de Radio Canu, Monsieur Frémaux père. Donc voilà, qui grâce à lui nous sommes encore aujourd'hui à l'antenne. On poursuit avec la rubrique Miam Miam, c'est-à-dire on va parler de bouffe et un peu d'environnement. Alors pour parler de bouffe, on va commencer, ça va pas être très glorieux, hein, je vous préviens d'avance. Les nanomatériaux. Alors, les nanomatériaux jusqu'à maintenant, donc c'est les matériaux qui sont à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire voilà, des trucs tout petits. On avait des applications au niveau de certains carbones dans les freins, des choses comme ça. Je vais pas refaire un détail.
Dans les pneus aussi, non?
Ouais,
il y en a un peu dans plein d'endroits maintenant.
Il y en a dans quelques endroits, ouais, en tout cas. Mais là, c'est sur la bouffe. Et on a appris que Madame Royal, donc qui est ministre de la non-écologie, qui prétend que la santé est une priorité, etc., elle a facilité la présence de nanomatériaux, enfin un rapport qu'elle a validé, a facilité la présence de nanomatériaux dans l'alimentation. Mais, heureusement, elle était mise de côté, puisque ce rapport présenté aux députés européens a été recalé par la Commission européenne. C'était lundi dernier. Alors, ce qu'on a appris par la suite, et ce qui a été révélé, c'est que, grosso modo, le secrétaire général des affaires européennes, c'est un truc qui sert de couloir ou d'échange entre les services du Premier ministre français et les députés européens français. Ils avaient envoyé, avant ce fameux vote à la Commission européenne, donc une note incitant à voter pour la présence des nanotechnologies dans la bouffe. Donc le document a été révélé, publié sur Internet notamment. On y lit, je cite, « Les autorités françaises ont toujours soutenu que les nanomatériaux doivent être considérés comme de nouveaux aliments, indépendamment de leur propriété ou absence de propriété spécifique à l'échelle nanométrique. » Alors dire que les nanomachins sont des aliments, ça fait quand même hyper peur. Grosso modo, le gouvernement français validait l'utilisation généralisée des nanomatériaux dans l'alimentation. Vraisemblablement, ils ont eu les industriels du secteur qui leur ont demandé de faire ce choix-là. Donc ça a été recalé lundi dernier. Donc maintenant, l'autorité européenne de sécurité alimentaire va étudier l'usage des nanomatériaux dans l'alimentation, parce que ça va repasser devant les instances européennes pour reprendre une décision. Alors, grosso modo, quel est l'enjeu, quel est l'impact, quels sont les dangers? On ne sait pas bien. Ça, c'est le truc à retenir. On sait qu'il y a des dangers. Il y a des chercheurs qui estiment que ça pourrait être aussi dangereux que l'amiante a pu l'être quand on respirait de l'amiante. Bon, on sait, c'est tout ça est très très flou parce qu'il y a très très peu d'études. Donc pas d'idée, sauf que les scientifiques ont quand même de grosses présomptions sur des gros dangers. Mais alors, quel est l'intérêt pour l'industrie agroalimentaire? L'industrie agroalimentaire, elle peut servir de ces petites nanoparticules pour changer le goût, pour ralentir le degré de pourrissement des aliments, des choses très artificielles comme ça. Donc voilà, c'est un vrai danger, les nanoparticules hors de la bouffe, et ça risque d'être un vrai danger si ça arrive aussi dans la bouffe. On va voir ce qui se passe dans les semaines qui viennent. Donc on rappellera que c'est bien la ministre de l'écologie qui a fait passer cette note aux députés européens pour qu'ils fassent valider tout ça par les instances européennes, ce qui n'a pas été validé. Alors du coup, je vais être un petit peu court en temps, donc je vais être obligé de couper et d'aller très très vite. Juste reparler de la nouvelle frite qui est vendue par une société américaine, ça s'appelle Simplo, qui a inventé une frite OGM, donc génétiquement modifiée. Donc le principe, c'est on dit que c'est cisgénique, donc c'est des molécules d'ARN, c'est pas l'ADN. L'ADN, c'est ce qui a le message de l'information qu'il y a au cœur de tout être vivant. C'est l'ARN, c'est la copie qui sert à faire le transport, notamment de l'information. Une copie qui est légèrement différente de l'ADN par les bases qui la composent. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, par cette technique d'ARN, qui est une technique qui n'a jamais été évaluée scientifiquement sur les risques que ça induit sur la santé. Donc là, déjà, on a de forts doutes. Mais bon, ils ont créé cet OGM. Quel est l'avantage de cet OGM? Il a été modifié pour supprimer l'acrylamide. Oh là là, c'est quoi l'acrylamide? J'en avais jamais entendu parler, vous non plus peut-être, si on a déjà entendu des bruits sur cette substance, qui est considérée par le CIRC. Je vais retrouver le nom exact, le Comité International de Recherche sur le Cancer, quelque chose comme ça. Ne pas confondre avec le CIRC qui défend le cannabis. Donc là, il parle du cancer. Ils l'ont qualifié de cancérigène probable. Ça se trouve où? Ça se trouve dans les aliments qu'on fait cuire très fort, notamment dans les frites, dans les pommes de terre sautées. Mais on en trouve aussi beaucoup dans le thé. Hein. On en trouve beaucoup dans le café. On en trouve dans le pain. Alors le pain, si jamais le matin vous faites griller votre pain, c'est une catastrophe. C'est, paraît-il, rempli d'acrylamide, ce qui semble vrai du coup. Mais l'entreprise donc fait croire que la solution à cet acrylamide qui est potentiellement cancérigène, c'est l'invention de cet OGM, donc cette pomme de terre sans acrylamide, qui, quand elle va griller, va pas devenir cancérigène. Alors, c'est le voilà, pour des raisons de santé, on vous vend un truc qui est potentiellement dangereux parce que il n'y a pas d'études dessus. Alors, est-ce que c'est vraiment important de lutter contre l'acrylamide? Peut-être, on n'en est pas sûr. Les scientifiques ne sont pas sûrs parce que c'est juste un cancérogène probable, qu'il n'y a pas d'études. Il y a quelques études, mais les études ont plutôt démontré qu'il n'y avait pas d'impact. Mais à chaque conclusion de ces études, ils disent on n'a pas assez de recul pour savoir encore. Donc bon, bref, on attend. Donc quand on attend, voilà, on n'est pas sûr du tout. Et puis les scientifiques disent mais c'est pas la pomme de terre qui pose le plus problème. À la rigueur, vous arrêtez de les faire frire déjà, ou vous buvez moins de café parce que là il y en a beaucoup de cette matière de cet acrylamide. Et puis, les scientifiques nous rappellent aussi qu'il existe naturellement, par croisement, des pommes de terre qui en ont très très peu. Donc, il n'y a pas besoin de l'OGM. Donc, c'est une nouvelle fois une propagande d'une entreprise américaine qui fait croire que l'OGM est la solution, alors qu'il en existe, sans OGM, des solutions. Bon, pour l'instant, ça va pas arriver chez nous, mais c'est un nouvel OGM, voilà, qui se présente comme bénéfique pour notre santé. Il reste 2 minutes, je vais
écoute,
vite.
Tu sais quoi, juste pour dire, tout va bien puisque Coca-Cola va se lancer dans le lait. C'est du lait sans lait, hein, transformé. Donc voilà, le monde agroalimentaire va très très bien.
Voilà, arrêtez de manger des produits bizarres, mangez des produits naturels. Je vais terminer avec aujourd'hui cette fameuse, je sais pas comment on peut appeler ça, officiellement, ça s'appelle la 3e conférence environnementale, mais ça ressemble plutôt à une conférence anti-environnementale, comme d'habitude avec les gens qui nous gouvernent, hein, de droite comme de gauche, sauf les Verts, bien évidemment. Donc, Hollande a été qualifié d'écolo. On lui a demandé depuis quand il était devenu écolo. Il a dit depuis qu'il est arrivé aux responsabilités du pays. C'est pour préparer la grosse réunion, hein, de l'année prochaine internationale sur le réchauffement climatique. Il y a 159 propositions à discuter dans les tables rondes. Ce qui nous fait quand même beaucoup rire, c'est qu'il dit que la transition énergétique est importante, sauf qu'il a rien mis en place. Hein. Grosse source de pollution, le transport, on n'a rien vu venir. Les transports en commun ne sont pas plus développés que ça. On veut mettre des bus à la place des trains qui émettent pas de CO2. Enfin voilà, grosso modo, il n'y a aucune volonté de diminuer la place de la voiture. Bon, c'est de la propagande, comme d'habitude. Le vernis vert sur les socialistes, on le connaît depuis longtemps, il s'effrite toutes les trois semaines, ils remettent un coup, ils s'effritent à nouveau. C'est un vernis qui n'est pas très efficace. Petit agenda vite fait, puisqu'il nous reste quelques secondes avant la petite cuillère, si j'ai bien tout compris, cette semaine. Donc, ce samedi, pas mal de choses. Le soir, je vais commencer par ça, la clôture du fameux Novembre on s'installe partout, qu'à la Radio Canu a participé. Ça passera à la boulangerie du Prado, 69 rue Sébastien Griffe, pas loin de la librairie La Griffe, dans le 7e. Il faut payer 2 euros d'adhésion. Et après, vous avez des concerts, notamment Genomute et POC. Voilà, POC, c'est musique traditionnelle. Il y a un peu d'Irish, un peu de klezmer, un peu de country, un peu de tous pour danser. Donc voilà. Bon, samedi 29, vous avez compris, la grosse manif anti-Front National. Départ 14h de la place Jean Massé. On arrivera au terreau avec Otero, parce que ça se veut festif, des concerts gratuits. Dimanche, plein d'ateliers autour de la lutte antifasciste. Ça se passe dans le 8e, soit à la MJC La Hennec, Mermoz, soit à la mairie du 8e. Je vous laisse aller voir sur Internet. Il y aura tout le détail des informations avec des sujets comme étendre le droit des femmes et des LGBT menacés par l'ordre moral qui est véhiculé par le Front National, notamment le droit du sol, le droit de vote pour les étrangers, on en reparle, lutter contre les groupuscules de l'extrême droite, les connaître, les comprendre. Enfin, il y a plein d'ateliers pour mieux connaître cette extrême droite qui est protéiforme, il faut quand même le dire. Donc voilà pour ce nouveau Canu Info, et j'espère qu'on a été diffusé en FM et que TDF n'a pas coupé la diffusion cette semaine.
Non, parce que là, après, moi, je m'énerve, je vous le dis tout de suite. Non, c'est très agréable de préparer une émission, d'arriver. Hein, vous rappelle qu'ici, on est tous bénévoles, on travaille, on a des activités et tout ça. Et bah voilà, ne pas pouvoir être diffusé après toute cette énergie qu'on met à vous préparer de si belles émissions, bah, quand même, hein, ça nous agace profondément. Normalement, on vous retrouve pas la semaine prochaine. Non. Bon, on peut pas être là non plus comme ça toutes les semaines. Ah, mais non, mais c'est juste que vous savez, des fois, on a des occupations et que donc on sera pas là. Et on vous dit donc à très bientôt.